Alors, j'avais prévu de me présenter un petit peu, pour ceux qui ne me connaissent pas. Si je dois me présenter, je dirais que la principale chose, c'est que je suis chrétien. Je pense que c'est déjà un bon départ. Et je suis chrétien depuis de nombreuses années. Je suis incapable de vous dire à quelle date je me suis converti, puisqu'en fait, de nombreuses fois dans ma vie, en étant jeune, je me suis dit, Seigneur, si tu viens, ne me laisse pas sur terre. Et un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais converti depuis bien longtemps, parce que c'est quand même relativement simple d'être sauvé, même si pour certains ça peut être compliqué. L'approche et saisir le salut est quand même quelque chose de très simple et on peut le faire en étant tout petit. J'ai 45 ans, je suis divorcé, remarié avec une merveilleuse femme, Karine, qui a eu, elle, 5 filles, mais il n'y en a plus qu'une à la maison, Anna, qui a 12 ans. Voilà. Et 4 autres sont parties de la maison, donc nous avons à la maison une petite fille, une grande fille. Comme l'a dit Albert, mes parents sont appelés, ils s'appellent Papi Jo et Mamie Chou, pour ceux qui les connaissent. Ils sont assez acteurs dans la région. Et, ils vous passent bien le bonjour. Papa vous remercie encore, maman aussi, pour toutes les prières qui sont montées pour sa convalescence. Il va, je dirais, très très bien, à mon regard. À son regard, il n'est pas encore assez rapidement remis. Il aimerait que ça aille plus vite. Il aimerait pouvoir remonter, refaire des travaux. Mais voilà, il vous salue. C'est un Goethal, ouais. Si je dois me décrire, je dirais que je suis en route vers le ciel et en constante progression. Enfin, en tout cas, c'est ce que je recherche. Et je suis ce qu'on appelle... On a eu une grande discussion avec ma petite femme en disant « Je suis d'une bonne famille ». Alors, une bonne famille peut dire plusieurs choses. Ça ne veut pas dire que c'était une famille aisée avec plein d'argent. C'était d'une bonne famille au sens avec des bonnes valeurs, je crois. Donc, mes deux parents sont chrétiens, déjà. Voilà. Mes grands-parents paternels étaient chrétiens. J'ai eu à peu près tout ce que je voulais. Un cadre paisible. A priori, tout ce qu'il fallait pour être heureux et m'épanouir dans la vie. J'ai jamais touché à la drogue, jamais à l'alcool. J'ai pas fait de crise d'ado. En tout cas, mes parents confirment que je n'ai pas fait de crise d'ado. Je crois ne pas avoir fait de crise de trentaine, ni de quarantaine. Voilà, donc je suis quelqu'un d'a priori assez classique, assez normal. En résumé, je dirais, j'ai pas été un bad boy. Plutôt, les gens me voient toujours comme quelqu'un de plutôt bien agréable à côtoyer. Par contre, malgré tout ça, ça ne m'a pas empêché d'avoir des problèmes avec la pornographie, avec la masturbation. Tout ce contexte vraiment idéal pour moi n'a pas permis de me protéger de ces choses-là. Voilà. Je vous expliquerai pourquoi plus tard je mentionne ce détail de ma vie. J'ai été baptisé enfant. On est dans des églises baptistes, alors du coup je précise que j'ai été baptisé enfant. Mes parents ont décidé de me baptiser quand j'étais enfant. J'ai reconnu ce baptême, mais j'ai surtout une démarche particulière avec le Seigneur par rapport à un engagement et un témoignage. Et aujourd'hui, je me considère comme baptisé. Voilà. Et si je dois terminer de me présenter, je dirais, j'aime beaucoup rendre service. Pas forcément pour apporter des messages, parce que ça me stresse. Mais par contre, si vous avez des problèmes avec votre voiture ou des bricolages, des choses comme ça à faire, je suis un Goethal, donc j'aime beaucoup faire ça. Voilà. Et puis du coup, pour mon souhait dans la vie, j'ai pu vous partager des choses que j'ai dû traverser, des moments difficiles. Aujourd'hui, mon gros combat, c'est que j'aimerais, quand j'arriverai au ciel, que le Seigneur me regarde et me dise « Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses ». Faire la volonté de Dieu. Je pense que c'est quelque chose que je n'arrive pas encore à faire parfaitement. Et c'est un de mes combats aujourd'hui. Voilà. On va passer à la pré-introduction du sujet. Mon leitmotiv, c'est la transparence et la sincérité. Je pense que c'est vital, important, dans le couple, tout le monde en est convaincu, mais entre frères et sœurs également. Transparence et sincérité par rapport à nos combats, par rapport à ce qu'on a pu avoir comme difficulté, par rapport à nos sujets de prière, par rapport à tout ce qui peut nous inquiéter ou concerner. C'est très important, et encore plus entre frères et sœurs de la foi. Alors, tout ce que je vais pouvoir dire maintenant, en fait, j'ai un passif, j'ai passé quelques années dans des églises tarbistes, avec, c'était pas préparé, donc à tour de rôle, le dimanche, chacun, chaque frère pouvait se lever et apporter un message. On structurait pas forcément le message et le préparer avec autant d'avance qu'aujourd'hui. Et ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, puisque l'église de Valentigny, Jésus t'aime, où Luc nous visitait, a malheureusement fermé il y a quelques années. Donc ça fait quelques années que j'ai pas fait cet exercice. Je vous montre un petit peu d'indulgence. Mais j'aimerais juste que ce soit bien clair. Tout ce que je dis aujourd'hui s'applique premièrement à moi. Et j'aimerais vraiment prêcher premièrement pour moi. Et si vous pouvez en profiter, ben, que Dieu soit glorifié. On arrive au sujet. Le sujet. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et je vous propose d'aborder ce sujet que j'intitulerai « Et si on regardait les situations avec le regard de Dieu ?» Et si, au lieu de regarder les situations avec notre regard, on les regardait avec le regard de Dieu ? Comme ça, voilà. Je propose qu'on prenne l'histoire d'Esther. Je prends quelques extraits de l'histoire d'Esther. Et puis, je ferai des pauses. Je me permettrai quelques commentaires. Alors, ce qui va être compliqué pour vous, c'est que l'histoire d'Esther, vous la connaissez. Vous savez comment elle commence, comment elle se passe et comment elle finit. Et j'aimerais vous demander de faire l'exercice d'imaginer que vous la lisez pour la première fois. On va lire l'histoire, étape après étape, puis on va essayer de voir un petit peu comment nous, on pourrait voir les choses, et puis comment Dieu peut voir les choses également. Alors, Esther 1. Cette histoire se passait au temps de Xerxès, celui dont l'empire s'étendait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie et comprenait 125 districts. En ce temps-là, quand l'empereur Xerxès vint prendre place sur son trône impérial dans la citadelle de Suse, la troisième année de son règne, il organisa un grand festin pour tous ses ministres, ses hauts fonctionnaires, les officiers de l'armée, des Perses et des Mèdes, ainsi que les nobles et les gouverneurs des provinces. Il voulait montrer devant eux la richesse et la gloire de son règne et la splendeur de sa grande magnificence. Les festivités durèrent très longtemps, 180 jours. À la fin de cette période, l'empereur offrit à toute la population de Suse, riche ou pauvre, un banquet qui eut lieu pendant 7 jours dans les jardins du palais impérial. Des tentures de lin blanche et bleu ciel étaient fixées à des colonnes de marbre par des cordelières blanches et pourpres passées dans les anneaux d'argent. Des divans d'or et d'argent étaient disposés sur des dallages de mosaïques faits avec du porphyre, du marbre, de la nacre et de l'agate. On servait des boissons dans des coupes d'or, toutes différentes de forme. Le vin de l'empereur coulait avec une générosité toute impériale. Il avait été ordonné que chacun puisse boire à volonté sans aucune contrainte, car l'empereur avait donné des instructions à tous les intendants du palais pour qu'ils satisfassent les désirs de chacun de ses hôtes. L'impératrice Vasti organisa de son côté un banquet pour les femmes dans le palais de l'empereur Xerxès. Le septième jour du banquet, comme l'empereur était égayé par le vin, il était bourré, il ordonna aux sept eunuques spécialement attachés à son service, Mehumam, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zetar et Carcas, de faire venir l'impératrice Vasti en sa présence, couronnée du diadème impérial. Il voulait montrer aux hommes de tous les peuples rassemblés et aux ministres combien elle était belle, car elle était effectivement d'une beauté remarquable. Les eunuques transmirent à l'impératrice Vasti l'ordre de l'empereur, mais elle refusa. Elle refusa d'aller se présenter devant lui. Celui-ci en fut vivement irrité et se mit dans une violente colère. Donc, cette histoire commence par un grand festin. 180 jours, quasiment 6 mois. On va dire 6 mois. 6 mois de festin, a priori, il faisait que faire la fête. Personne n'allait travailler, c'était pas juste le soir où on se retrouvait, 180 jours. a priori, je pense pouvoir affirmer que c'était un contexte d'ivrognerie notoire. Tout le monde était bien gai. On peut imaginer, mais quand même, le matin, quand ils se réveillaient, ils avaient encore les restes de la veille. Et le roi a une attitude assez discutable à vouloir appeler sa reine à se présenter juste pour pouvoir briller devant ses copains. Une histoire comme celle-là, moi je me dis, on est mal barré. À vue humaine, le roi ne fait pas tout ce qu'il faut pour y arriver dans la vie. Il ferait mieux d'être un peu plus sobre, se mettre au travail, éventuellement récompenser le peuple. Bon, il le fait, il donne quand même 7 jours. Sur les 180 jours, après, il donne 7 jours pour le peuple, pour que tout le monde puisse faire la fête, voilà, pour montrer aussi comment il est beau. Mais en tout cas, son attitude est clairement pas correcte, à mon regard à moi. Et puis, sa reine, qui fait la fête de son côté, quelque part, j'aurais presque tendance à lui donner raison. Elle n'a pas allé se pavaner devant... Voilà. Même si, effectivement, il y a des règles à cette époque-là, le roi est suprême, et donc, quand le roi demande quelque chose, on s'exécute. La situation est quand même plutôt en faveur d'Esther. Devant un tribunal, j'aurais plutôt tendance à pencher du côté de Vasti que du roi. Et la sanction tombe, Vasti est renvoyée. Si on continue un petit peu, on ne lira pas ce passage-là, mais en fait, il va falloir un petit peu de temps pour que le roi se calme. Il y a marqué qu'après quelques temps, le roi s'est calmé, et du coup, il a regardé comment il allait pouvoir traiter cette affaire. Il lui faut une nouvelle reine, il va continuer comme ça. Alors, on continue, on va prendre chapitre 2, versets 5 à 7. Donc là, le roi n'a plus de reine. Il demande des conseils et on lui dit il faut que tu fasses venir toutes les vierges de la région et puis celle qui te plaira, tu la prendras comme reine. Esther 2, verset 5. Or, dans la citadelle de Suse, vivait un juif nommé Mardoché. Il était fils de Yaïr et descendant de Shimei et de Kish, de la tribu de Benjamin. Sa famille avait été déportée de Jérusalem avec les autres exilés emmenés par Nabuchodonosor, roi de Babylone, en même temps que Yéconia, roi de Juda. Mardoché avait élevé sa cousine Hadassa, c'est-à-dire Esther, orpheline de père et de mère. Cette jeune fille était bien faite et d'une grande beauté. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée comme sa fille. Je me suis présenté au départ. Là, c'est un petit peu pareil. Esther est présentée. Voilà le pédigré d'Esther. Orpheline. Avec la déportation, c'est pas écrit, mais dans ma lecture, je me suis dit, il n'est pas improbable que ce soit le gouverneur qui ait engendré la mort de ses deux parents, puisqu'ils ont été déportés, cette fille se retrouve sans parents, avec la barbarie qu'il y avait à ce moment-là. Voilà. Peut-être que les autorités en place à ce moment, c'est une hypothèse, hein, c'est pas. Mais peut-être que les autorités en place à ce moment-là étaient en fait clairement, les coupables de la mort de ses parents. Et du coup, Esther est décrite comme une jeune fille, belle, mais elle est juive. Ça ne vous pose pas un problème. Le roi, il cherche une nouvelle reine. Il ne vérifie même pas l'origine des personnes, des jeunes filles qu'il fait venir. Et là, du coup, elle est juive. Moi, ça me surprend. Et puis, le peuple de Dieu, Dieu permet... Moi, je prierais pour que Esther puisse s'en aller du pays, quitter le pays, être protégée et ne pas être embarquée dans cette infamie. C'est juste, pour moi, c'est insoutenable de penser qu'on puisse embarquer toutes les jeunes filles juste pour le plaisir du roi. C'est quand même incroyable, cette histoire. Si on va à peine plus loin, au verset 10 à 15... Donc, les filles sont présentées devant le roi, mais Esther n'avait révélé ni son peuple, ni sa famille d'origine, car Mardoché le lui avait interdit. Chaque jour, il se rendait devant la cour du harem pour prendre des nouvelles d'Esther et savoir comment on la traitait. Les jeunes filles se rendaient chacune à son tour chez l'empereur Xerxès au terme du traitement de beauté prescrit pour 12 mois par le protocole des femmes. 12 mois de préparation. Vous imaginez chaque jour, pendant 12 mois, être dans cette situation. Moi, je pense que je quitte le palais, je me sauve et je me cache. Pendant 12 mois, elle a été préparée. Pour ce traitement, on utilisait pendant 6 mois de l'huile de myrrhe et pendant 6 autres mois des baumes aromatiques et divers produits de beauté employés par les femmes. Puis, lorsque venait le tour d'une jeune fille de se rendre chez l'empereur, on lui donnait tout ce qu'elle demandait pour emporter du harem au palais impérial. Elle s'y rendait le soir et le lendemain matin, elle était conduite par un second harem et confiée à la responsabilité de Chasgaz, l'eunuque de l'empereur chargé de la garde des épouses de second rang. Elle ne retournait plus chez l'empereur, à moins que celui-ci en manifeste le désir et la fasse appeler par son nom. On va dire que Esther a passé le casting. Esther est retenue. Alors, elle est juive. Elle est mignonne. Elle est très agréable. Et du coup, le roi, a priori, il est plus attaché par le physique que par l'histoire des personnes. Mais en gros, elle se retrouve au palais impérial. Une juive orpheline se retrouve au palais impérial. J'ai pas très bien compris. A priori, je dirais comme une épouse de second rang, dans un premier temps, puisque je pense que c'est a priori, elle était de second rang, et après, c'est seulement après qu'il la nomme reine. En gros, elle a un statut, quand même, très proche du roi, et, mais dans un contexte clairement pas en corrélation avec les juifs. Hein. Une seule femme, je veux dire, c'est là, en plus, il n'y a pas question de mariage. En fait, il teste les femmes les unes derrière les autres. C'est affreux, c'est atroce, affreux. Tout ce contexte-là, si on fait une pause, franchement, là, je me dis stop, on arrête l'histoire. Soit Dieu donne un grand coup de pied dans la fourmilière, il renverse tout, c'est là que des prières montent devant Dieu en disant « Seigneur, renverse les plans de Satan, que si toute la méchanceté de Satan soit transformée en gloire, en puissance, en amour, pour ta gloire. Hein, » je fais ces prières-là, je pense que vous êtes aussi à faire des prières comme ça. Quand il y a on voit la guerre, quand on voit des situations affreuses, on se dit stop. C'est à ce moment-là, on imagine bien le roulement de tambour, Dieu intervient et tout est beaucoup mieux, beaucoup plus simple. On a dit tout à l'heure que Mardochée, du coup, était juif, il a recueilli Esther, et Mardochée respecte les lois juives. Et on va voir qu'il a du respect aussi pour les autorités. Malgré tout ce contexte, où clairement, pour beaucoup moins, moi je me dirais, les autorités, il faut les respecter, mais bon, il y a marqué que c'est jusqu'à ce que ce ne soit pas contradiction avec Dieu. Franchement, là, c'est quand même en contradiction avec Dieu, donc on n'a pas besoin de respecter ces autorités. Hein, on a des bonnes raisons de dire, là, ce coup-ci, on s'arrête là. Les autorités, je les respecte, mais là, c'est trop. Dieu, il ne peut pas concessionner ça, ce n'est pas possible. Je refuse, je ne me soumets pas. Haman se soumet dans une certaine limite. C'est ce qu'on va lire. Alors, 21. À cette époque, alors que Mardochée exerçait donc des fonctions au palais impérial, deux eunuques de l'empereur Bigthan et Teresh, qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, furent exaspérés par l'empereur Xerxès et cherchèrent à l'assassiner. Mardochée en eut connaissance et il en avertit l'impératrice Esther qui mit l'empereur au courant de la part de Mardochée. Après enquête, l'information se révéla exacte, les deux coupables furent pendus à une potence et l'affaire fut consignée dans le livre des annales en présence de l'empereur. Une petite parenthèse dans cette histoire d'Esther. Et si on regardait cette histoire un petit peu différemment? Il y a deux personnes. Mardochée n'est pas du tout impliqué, remarquez. Deux personnes veulent tuer le roi. Merci Seigneur d'avoir envoyé ces deux personnes pour tuer le roi. Si le roi est mort, ma petite Esther est libérée, je peux la récupérer et on va pouvoir enfin vivre selon tes coutumes, selon tes ordonnances et se réjouir. Moi, elle me plaît bien cette version, parce qu'il y a un peu de justice, et puis, mince, ça fait quand même beaucoup de choses qui s'accumulent. Voilà. Alors, vous connaissez la fin de l'histoire, hein, vous la connaissez, cette histoire, parce qu'après, le peuple juif va être libéré. Tout ça. Oui, pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas. Et là, tout prête à croire que le peuple juif est plutôt dans une mauvaise passe. Si on fait un parallèle avec nos vies, on en est là. Ce qui est derrière, on ne sait pas. Bon, je ne sais pas ce que vous vivez comme circonstance actuellement. Mais pensons que Dieu sait. Et Dieu sait ce qu'il y a derrière. Dieu sait qu'est-ce qui va se passer après. Et là, du coup, Mardoché ne laisse pas faire. C'est injuste. Le roi doit être respecté. Des gens veulent le tuer. Il fait passer le message. L'affaire est analysée. Les deux personnes sont punies. Le roi est sauvé. Le roi est sauvé. Du coup, Esther reste dans sa situation. Voilà. On voit après que dans les passages qui suivent, alors, j'ai volontairement sélectionné les passages. S'il n'en tenait qu'à moi, j'aurais tout lu Esther, tellement j'aime ce livre. Et donc, tous les détails sont vraiment très importants. Je vous encourage à le relire. Mais si vous regardez un petit peu après, vous allez voir que Haman, qui est une personne du palais, demande à ce qu'on se prosterne quand il passe. Voilà. Et Mardoché, là, c'est la limite. La limite. Ouais. Alors, à chacun de définir comment il comprend la limite de Dieu dans sa vie. La limite d'Haman, c'était pas de fuir et de ne pas se soumettre aux autorités, mais sa limite, c'était de ne pas se prosterner devant quelqu'un d'autre que devant son Dieu. Et je trouve ça très honorable. Ça aurait été simple de la part de Mardoché. Tout le monde le fait. Hein. On se donne bonne conscience. Tous les autres le font. Il le fait comme ça, mais dans son cœur, il ne le fait pas vraiment, il le fait juste physiquement, il ne le fait pas vraiment, et puis ça ira bien, et puis ça évitera de poser des problèmes. Il y a quand même Esther qui est au palais, si jamais il fait un bazar, c'est la vie de sa fille, par adoption, qui est en danger. Mais non. Là, c'est la limite pour Mardoché. Non. Il a un seul Dieu, il ne se prosternera pas devant Haman. Et Haman est clairement piqué dans son orgueil. Hein. Chaque fois qu'il se balade et qu'il voit Mardoché qui ne se courbe pas, ça travaille. Quand même. Voilà. Et là, on peut voir une autre réaction qu'en tant qu'être humain, on peut avoir. Vous allez voir qu'Haman, il fait un amalgame complet entre Mardoché et les Juifs. Pourquoi ? Juste Mardoché qui refuse de se courber, pourquoi il veut aller exterminer le peuple juif ? Soyons modérés, réfléchissons un peu de recul. C'est juste Mardoché. Occupe-toi de Mardoché, laisse les juifs tranquilles. C'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on réagirait aussi violemment ? Et du coup, dans toutes ces situations, l'histoire continue. C'est long, hein ? C'est pas notre histoire, ça va. C'est une histoire. Mais quand dans nos vies, c'est long, c'est long. Seigneur, délivre-moi. Hein ? Et puis, je vais peut-être apprendre un peu plus vite. Hein ? Je vais peut-être essayer d'apprendre plus vite parce que c'est peut-être pas nécessaire tout ça. Alors, c'est des questions qu'on peut se poser, hein. Mais là, on voit que l'histoire continue. Et donc, Haman veut exterminer le peuple juif, et donc là, Mardoché va intervenir, appelle Esther, et lui demande d'intervenir. Donc, alors, Esther, chapitre suivant, 4, on voit que Esther, la première réaction, c'est qu'est-ce que je peux faire ? Je ne suis qu'une petite orpheline, et voilà. Donc, au début, la première réaction, c'est elles ne se sont pas forcément trop capables de faire quoi que ce soit. On est dans Esther 4. Verset Donc Esther ordonna à Hatak de rapporter sa réponse à Mardochée. Tous les serviteurs de l'empereur ainsi que les habitants de toutes les provinces de l'Empire savent bien qu'il y a une loi qui est la même pour tous, en vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'empereur, sans avoir été convoqué par lui, sera mis à mort. Sauf si l'empereur lui tend son sceptre d'or. Alors seulement sa vie lui sera épargnée. Quant à moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à me rendre chez l'empereur. Lorsqu'on eut rapporté à Mardochée les paroles d'Esther, il lui fit répondre « Ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné de la différence de tous les autres juifs. » D'épargner à la différence des autres juifs. Bien au contraire. Car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les juifs. Alors que toi et ta famille, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice ? Le verset central. Qui sait si ce n'est pas pour une telle circonstance que tu es devenue impératrice. J'aime beaucoup voir ce passage comme Dieu souverain. Satan essaie de faire des choses, plein de choses, du mal. Dieu est souverain, Dieu laisse faire. Mais au-delà du fait qu'un jour il va intervenir pour dire stop, en plus, il utilise les manigances de Satan pour bénir. Alors, ça ne doit pas nous encourager à faire des bêtises. Hein. Ce n'est pas mon propos. Mais voyons quand même là que la question qui est posée, moi je la prends comme venant de Dieu, et si tout ce que l'on a vécu jusqu'à présent, Dieu n'est pas intervenu tout de suite, ou Dieu l'a permis pour notre bien, pour le bien des autres. Voilà. Là, et là, l'histoire d'Esther prend un virage. On va lire le verset 16. Verset 16. Va rassembler tous les Juifs. Donc Esther dit, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur, malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Mardochée partit et fit ce qu'Esther lui avait commandé. Au début, c'est Mardochée qui donne des ordres à Esther. Là, c'est Esther qui ordonne à Mardochée. Esther risque sa vie quand même. Hein. Je veux dire, le roi n'a pas l'air commode. Quand il appelle son ancienne reine qui ne vient pas, ça a été réglé manu militari. Il n'a pas l'air commode. Du coup, Esther prend quand même un gros risque. Alors, le livre d'Esther, c'est le seul livre où il n'y a pas mentionné le nom de Dieu dedans. Hein. Il n'y a pas Dieu prononcé dans le livre d'Esther. Mais dans le filigrame, on voit en fait l'action de Dieu. Et quand elle dit jeûner, le jeûne allait souvent avec la prière. Et donc, elle s'en remet à Dieu. Donc, Esther finalement dit, ok, si je dois mourir, je meurs. J'accepte ma mission. Allons-y. Elle demande le soutien de son peuple. Et à ce moment-là, moi j'aurais aimé un petit verset qui dise « De nuit, elle entendit une parole de Dieu lui dire « Tu feras ceci, 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 et je serai avec toi. » Ah si, quand même. Quand vous avez une révélation de Dieu qui dit « Je serai avec toi », là elle a risqué sa vie, j'aurais bien aimé ça. Pas de révélation de Dieu, ni comment faire, pas d'indication comment faire. Et pourtant, on voit que chez Esther, aucune précipitation. Il y a une confiance en Dieu qui est aux commandes. On va continuer, on va voir après comment ça se manifeste dans sa vie. Mais elle aurait pu dire, ben voilà, j'ai 3 jours, puis ben, pas de réponse, pas d'indication. Encore 3 jours, et puis encore 3 jours, elle aurait pu le vivre comme de cette façon. Je ne juge pas du tout. Ce n'est pas un jugement qu'on porte là sur cette situation, c'est juste la façon dont elle a eu d'aborder l'histoire. Je ferai un focus un peu plus tard sur notre vision de notre vie, notre vision de la vie des autres, la vision des autres de notre vie, et vice-versa. Soyons prudents quand on regarde la vie des autres. Là, Esther est quand même très courageuse. Voilà. Si on va dans le chapitre 5, versets 1 à 14. Au bout du troisième jour de jeûne, Esther revêtit ses habits royaux et se tint dans la cour intérieure du palais impérial en face des appartements de l'empereur. Celui-ci siégeait sur son trône dans le palais en face de l'entrée de l'édifice. Quand il aperçut l'impératrice, Esther, qui se tenait dans la cour, il lui accorda sa faveur. Il lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait en main. C'est bon. Une belle étape de passé. Elle était sur le fil et on est passé du bon côté du fil. Esther s'approcha, en toucha l'extrémité. Alors il lui demanda, « Qu'y a-t-il, impératrice Esther ? Quelle est ta requête ? Elle te sera accordée, même si c'est la moitié de l'Empire. » C'est pas mal. Elle n'est pas rejetée, le roi lui tend le sceptre, et il lui donne un chèque en blanc, la moitié de l'Empire. « Empereur, s'il te plaît, fais que mon peuple ne soit pas détruit, interviens, viens sauver mon peuple. » Moi, c'est ce que j'aurais fait. Là, porte ouverte, on a accès au roi qui nous dit « Demande jusqu'à la moitié de mon royaume. Je ne veux pas ton royaume, je veux juste que tu sauves mon peuple. » On va comme ça. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit « Esther, pas de précipitation et un calme assez incroyable. » Elle prend un risque quand même. Le temps est compté, hein. Amant, il n'a pas trop décidé de prendre son temps, il veut détruire le peuple juif, il veut intervenir. Alors qu'est-ce qu'elle demande Esther ? Esther répondit, ma requête, ma demande, la voici. Si l'empereur veut m'accorder sa faveur, et s'il veut bien accéder à ma requête et répondre à ma demande, que l'empereur vienne avec Amant au festin que je leur prépare demain. C'est alors que je répondrai à la question de l'empereur. Oula. Non. Ça se trouve, demain, l'empereur, il sera dans de mauvaises dispositions, et là, il est disposé. Il n'a pas l'air trop stable, il faut mieux en profiter. Demandons tout de suite. Mais non. Esther prend le temps. Elle a jeûné pendant 3 jours. Il ne nous est pas rapporté ce que le Seigneur lui a révélé, je suis d'accord. Peut-être qu'elle a une révélation, je ne veux pas cacher ça, mais en tout cas, ça ne nous est pas rapporté. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est juive. Elle a un Dieu, un seul Dieu, elle veut le servir, elle est prête à perdre sa vie pour sauver son peuple, elle est à disposition dans l'attente de la main de Dieu. Elle n'est pas en train d'essayer de briller ou quoi que ce soit, elle veut juste faire ce que Dieu lui demande. On continue ? Je vais vous faire voir qu'en fait elle aurait dû se dépêcher, elle aurait dû demander tout de suite parce que Amant s'en retourna en ce jour-là, joyeux et le cœur en fait. En passant devant la porte du palais impérial, il aperçut Mardoché. Celui-ci ne se leva pas et ne tremblait pas devant lui. Alors Amant fut rempli de fureur contre lui. Néanmoins, il se domina et rentra chez lui. Là, il fit venir ses amis et sa femme, Zeresh. Il lui décrivit longuement ses richesses prestigieuses, leur parla de ses nombreux fils et de tous les honneurs dont l'empereur l'avait comblé en l'élevant à un rang supérieur au ministre et à tous les hauts fonctionnaires impériaux. Et même, ajouta-t-il, « L'impératrice Esther n'a invité personne d'autre que moi avec l'empereur au festin qu'elle a préparé. Et demain, c'est encore moi qui suis invité avec l'empereur. Mais tout cela ne compte pour rien à mes yeux aussi longtemps que je verrai ce juif Mardoché assis à la porte du palais impérial. » Sa femme Zeresh et tous ses amis lui dirent « Il n'a qu'à faire dresser une potence haute de 25 mètres et demain matin, tu parleras à l'empereur pour qu'on y pende Mardoché. » Puis tu pourras aller gaiement au festin en compagnie de l'empereur. » Cette proposition plut à Amant et elle y fit faire la potence. Elle aurait parlé à la première autorisation du roi, ça n'existait pas. Moi, ça me plaît beaucoup. Parce que ça évite de faire souffrir les gens. C'est dur de voir souffrir les gens. Là, c'est une situation qui va encore faire souffrir. En plus, Amant, ça fait un bout de temps. Il serait peut-être temps que Dieu lui dise ce qu'il faut faire. Mais non, Dieu aussi est patient, et le temps de Dieu n'est pas notre temps. Chapitre suivant. Cette nuit-là, comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter le livre des annales, relatant les événements passés. Et l'on fit la lecture devant lui. On tomba sur le passage, racontant comment Mardoché avait prévenu que Bigthan et Teresh, deux eunuques de l'empereur, qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, complotait de porter la main sur l'empereur Xerxès. L'empereur demanda, De quelle manière a-t-on honoré Mardoché et quelle distinction lui a-t-on accordé pour cela ? Les serviteurs qui étaient en fonction auprès de lui répondirent : on n'a rien fait pour lui. L'empereur demanda alors : qui est dans la cour ? Quand on dit que Dieu a de l'humour, vous allez voir, c'est pas peu dire. Qu'il entre, ordonna l'empereur. Haman entre, donc c'est Haman qui se tient dans la cour. Donc l'empereur dit qu'il entre. Haman entra et l'empereur lui demanda. J'aime beaucoup cette partie-là. Que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer ? En son fort intérieur, Haman se dit, quel homme l'empereur peut-il désirer honorer, sinon moi ? Évidemment, Haman, il est si fort. Il répondit donc à l'empereur, pour un homme que l'empereur désire honorer, que l'on apporte un manteau de l'empereur que l'empereur a déjà porté, que l'on amène un des chevaux que l'empereur a monté, et que l'on pose sur la tête du cheval un diadème impérial. Que l'on confie le manteau ainsi que le cheval à l'un des ministres de l'empereur, l'un des plus hauts dignitaires, et qu'on revête du manteau l'homme que l'empereur désire honorer, puis qu'on le fasse monter sur le cheval et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville en proclamant devant lui « Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. » Alors l'empereur dit à Haman « Dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardoché, qui exerce des fonctions au palais. Ne mets rien de tout ce que tu as proposé. » Haman alla chercher le manteau et le cheval. Il revêtit Mardoché du manteau, puis il le fit monter sur le cheval et le conduisit ainsi sur la grande place de la ville en proclamant devant lui « Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. » Ensuite, tandis que Mardoché retournait à ses fonctions au palais impérial, Haman rentra précipitamment chez lui comme en deuil et en se couvrant le visage. Il raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis ce qui venait de lui arriver. Ses conseillers et sa femme lui dirent « Si ce Mardoché devant qui tu as commencé à être humilié est juif, tu ne pourras rien contre lui. Tu peux être certain que tu continueras à déchoir devant lui. » Ils étaient encore en train de s'entretenir avec lui quand survinrent les envoyés de l'empereur venus faire presser Haman de se rendre au festin préparé par Esther. Quand j'étais gosse, j'aimais cette histoire. J'aimais ce passage. Je me réjouissais. Je me réjouissais de ce passage qui disait « Eh ben vas-y, va faire à Mardoché. Vas-y. » La honte pour lui. J'ai toujours été un petit peu juste ici. Et du coup, je me réjouissais. Aujourd'hui, quand je lis cette histoire, je suis triste. La question que je me pose, vous n'êtes pas obligé de vous la poser, est-ce que des fois, on n'a pas cette attitude-là, nous, comme maman, à se dire, quand même, je suis d'une bonne famille. Je n'ai pas fait grand-chose de mal. Je mérite quand même l'honneur. Et puis à écraser les autres. On a le temps de Dieu qui s'applique encore là. Parce que du coup, il est pressé, il faut qu'il aille au palais ce coup-ci. Donc il va au palais, et il n'a pas le temps de se retourner, il faut qu'il aille au palais. Il va au palais. L'empereur et Haman arrivèrent donc pour festoyer avec l'impératrice Esther. Ce deuxième jour, pendant que l'on buvait le vin, l'empereur demanda de nouveau à Esther, « Dis-moi quelle est ta requête, impératrice Esther. Elle te sera accordée. » Quelle est ta demande ? Même si c'est la moitié de mon empire, tu l'obtiendras. C'est plus sur le coup, là. Il le confirme. Hein. Il confirme qu'elle a carte blanche. L'impératrice Esther répondit, « Si l'empereur veut m'accorder une faveur, si l'empereur le veut bien, que la vie sauve me soit accordée, c'est là ma requête. Que la vie sauve soit aussi accordée à mon peuple, telle est ma demande. En effet, moi et mon peuple, nous avons été livrés pour être massacrés, tués et exterminés. Si nous avions seulement été vendus comme esclaves et servantes, j'aurais gardé le silence. Car dans ce cas, notre infortune ne vaudrait pas la peine que l'on importune l'empereur. » Vous notez là que, au départ, Esther se garde bien de révéler son origine juive. C'est un peu un mensonge. Mensonge par omission. Pour moi, c'est un mensonge. Même si c'est Mardoché qui lui a dit de ne pas le dire, dans ma lecture, je me dis « Waouh !» Tu vois, ça te rattrape. Si je m'arrête à ce moment-là de l'histoire, ça te rattrape. Hein. T'as vu, là, du coup, t'as pas voulu dire que t'étais juif, mais du coup, t'es obligé de le dire parce qu'il faut que tu défendes ton peuple. Ça devait quand même pas être évident pour elle. Tu fais aussi, on peut se retrouver dans la même situation. Bon. Elle rétablit la vérité. Elle le dit. Voilà. Je veux intervenir, intercéder pour sauver mon peuple. Et dans le texte qu'il nous a rapporté, ce qui m'a aussi interpellé, Esther, elle ne présente pas une solution, elle ne présente pas une solution au roi, mais elle présente une demande. Elle dit, fais quelque chose pour que mon peuple ne soit pas exterminé. Elle ne dit pas, coupe la tête avant, ou je ne sais pas, donner des solutions comme ça. Non, elle est dans une dynamique de... Et je veux lire derrière ça qu'elle n'a pas une révélation claire de ce que Dieu lui a dit de faire. Mais elle avance avec Dieu. Elle n'a pas eu une révélation, va devant le roi, dit ceci, cela. Non, mais avec tout son cœur, elle avance. Et elle veut servir son Dieu. Alors, ce n'est pas en première lecture, mais en deuxième lecture, c'est vraiment quelque chose que, voilà, je pense qu'on peut appliquer à notre vie aussi. C'est, dans la vie, on avance. C'est merveilleux quand le Seigneur est très clair avec nous. Quand toutes les portes se ferment et une seule s'ouvre, c'est super. Mais quand des fois on avance et qu'on veut avancer avec Dieu, et ben pensons que voilà, Dieu nous laisse aussi libres. Et là, elle a cette démarche. Voilà. Elle marche avec son Dieu. Si on prend la suite de Esther 7, l'empereur Xerxès demande à l'impératrice Esther, « Qui est celui qui a eu l'audace de concevoir un tel dessein? Où est-il ?» Esther répondit, « Le persécuteur, l'ennemi, c'est Aman, ce misérable. » Alors Aman fut épouvanté devant l'empereur et l'impératrice. Furieux, l'empereur laissa son vin, se leva et sortit dans le jardin du palais. Aman, voyant bien que dans l'esprit de l'empereur son malheur était décidé, il resta là pour implorer l'impératrice Esther pour sa vie. L'empereur revint du jardin à la salle du festin au moment où Aman se laissait tomber sur le divan où Esther était allongée. Du coup, l'empereur s'écria, « Veut-il en plus faire violence à l'impératrice en ma présence dans mon palais ?» À peine l'empereur eut-il prononcé ces mots que l'on recouvrit la tête d'Aman, arbora l'un des eunuques dit alors devant l'empereur, « Et il y a justement cette potence que Aman a fait faire pour Mardoché, qui a parlé pour le bien de l'empereur. Elle se trouve dans la cour de Aman, elle a 25 mètres de haut. » L'empereur ordonna qu'on l'y pende. On pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Alors la colère de l'empereur s'apaisa. L'histoire de l'arroseur arrosé. Et ben, c'est la deuxième partie où je rigolais beaucoup quand j'étais petit, puis qu'aujourd'hui, j'ai la gorge nouée. C'est triste. Il se retrouve pendu sur le bois. Là, du coup, dans ma lecture aujourd'hui, je me dis, Seigneur, fais grâce. Qu'ils reconnaissent, que sa femme reconnaît, vous avez vu, hein, tout à l'heure on a lu, sa famille reconnaît, si Mardoché est juif, t'es mal barré, tu n'auras pas gain de cause. Parce que c'est le peuple de Dieu, Dieu est souverain, tu peux rien faire contre les élus de Dieu. La femme commence à faire un pas vers la repentance, vers la reconnaissance que Dieu est souverain, sa famille aussi. J'aurais bien aimé qu'Aman fasse pareil. Ben non. Des fois, il y a des situations où c'est pas le conte de fées. J'ai pas de réponse à ça. J'ai aucune réponse à ça. Dieu est souverain. C'est Dieu qui décide. Et voilà. Mais des fois, on voit des gens qui, malheureusement, finissent mal. Et on ne peut que s'en attrister et on peut prier pour eux. Vous chercherez aussi ? J'ai cherché parce que j'aurais été peut-être naturellement comme ça. J'ai pas, en tout cas dans ma lecture, j'ai pas l'impression que Esther fasse une requête contre Aman. Elle dit pas « il mérite de mourir ». Non. Le roi dit « qui a fait ça ?» Et elle dit « c'est ce méchant Aman ». Elle se venge pas. À Dieu la vengeance. C'est lui qui fait justice. Elle ne se venge pas. Alors ensuite, je savais que ça serait un peu long, donc dans la suite, on a donc la suite du texte qui du coup nous montre que finalement, le roi permet que les juifs se défendent, le peuple juif est sauvé, ce qui fait une fête, la fête de Pourim, je crois, qui du coup, ils se souviennent de cette délivrance qu'ils ont vécue. J'aimerais faire un petit focus sur un autre exemple pour ne pas rester que sur Esther, parce que je voudrais nous encourager à voir aussi d'autres histoires. C'est dans Jean 8. Je vais juste lire rapidement. J'ai jusqu'à quelle heure, Albert ? 10 minutes ? Encore 10 minutes, c'est trop ? 5 minutes, ça marche. Alors, 5 minutes. Eh bien, je vais le résumer. Si je vous dis que c'est l'histoire du couple adultère, ça vous parle ? La femme adultère ? Cette femme qui a amené à Jésus, la loi dit, il faut la lapider. Moi, je poserais la question, où est l'homme ? Ils amènent la femme, adultère, pour être adultère, il faut un couple, où est l'homme ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'homme, déjà ? Mais Jésus, sa réaction n'est pas celle-là. En une parole, il recadre. En une parole, notre Seigneur Jésus recadre la situation. Vous voulez juger ? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. On peut faire cet exercice avec toutes les autres histoires de la Bible. On peut prendre Joseph, l'histoire de Joseph, ou la décortiquer, plein de choses. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Jonas, Lazare, Ruth, tous les exemples de Jésus dans l'Évangile, c'est pareil. Alors, parce que c'est très visuel, je sais qu'on se rappelle plus du visuel, j'aimerais résumer de la façon suivante. Vous arrivez à le lire ? Oh, c'est petit ! Le soleil, c'est Dieu. L'individu, c'est nous, moi. Les individus, c'est les autres. Le regard de Dieu. Le regard de Dieu sur nous-mêmes. Vous vous souvenez au début, j'ai baissé un petit peu la garde, même beaucoup la garde, quand je vous ai confié que j'avais a priori pas trop fait de bêtises dans ma vie, mais ce qui ne m'avait pas empêché d'avoir des problèmes avec la pornographie et la masturbation. C'était quoi votre réaction à ce moment-là ? Vous m'avez regardé comment ? Ah bah quand même ! Il est chrétien quand même ! Ou bien alors, ah, je ne suis pas tout seul. Ou alors, voilà, quelle a été votre réaction ? La réaction de mon Dieu, ce n'était pas celle-là. Il a continué à m'aimer, il m'a toujours aimé, il nous a toujours aimé. On ne peut rien faire de plus ni de moins pour qu'il nous aime plus ou moins. Il nous aime, un point c'est tout. Le regard de Dieu sur nous est complet. Il voit tout. Il voit la fin de l'histoire avant son commencement. Il connaît tout, c'est complet. Il est intemporel aussi. Il n'est pas en train d'anticiper la bêtise qu'on va faire demain. Non, il est jour après jour avec nous. Et si on prend du temps à avancer, il reste avec nous. Il est libre et bienveillant. Il n'est pas en train de dresser une liste d'accusations contre nous. Il n'est pas en train de noter des points, là. Alors là, ça, paf, paf, ça, non, paf, non. Non, non, du tout. Il a un regard bienveillant. Et en plus, son regard est parfait. Parce que moi, tous les regards que je vous ai partagés sur l'histoire d'Esther au départ, ils ne sont pas parfaits du tout. Hein. Enfin, c'est mes regards, donc ils sont forcément mauvais. Ces jugements que je peux porter par rapport à l'histoire, ça ne vient pas de Dieu. Hein. Dieu doit nous donner, par son esprit, nous donner son regard sur les autres. Le regard des autres. Alors, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte. Je pense qu'il faut le considérer. Mais en tous les cas, le regard de Dieu sur nous est toujours plus important. Et puis, si quelqu'un doit nous juger, Dieu le fait. Et notre regard sur les autres, essayons de ne pas voir directement comme ça, essayons de passer par le regard de Dieu pour les voir tels que nos frères et sœurs sont, tels que les autres sont. Et puis vous savez, la petite histoire de tout à l'heure, là, de Haman qui mardochait les juifs, là. Moi, je suis comme ça. Hein ? Ah bah, regarde voir, encore une casquette. Mais non, stop. Ils sont tous des êtres vivants pour qui le Seigneur Jésus est mort sur la croix. Juste une idée à garder, l'œuvre de Jésus-Christ est nécessaire et suffisante pour nous rendre agréables à ses yeux. Et puis pour cette semaine, je ne vais pas tout lire, parce que j'ai plus le temps. Prions. Non, mais prions. Et puis à chaque fois qu'il y a une situation, que le Seigneur nous aide à prendre du recul, à se demander comment lui aurait réagi, comment lui nous voit, comment lui voit cette situation. Prions, prions, prions. Et puis acceptons le temps de Dieu. Parce qu'à la fin, ça finit bien pour ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur.